Il y a encore quelques prises de parole parce que serait ce 8 mars sans les questions de solidarité internationale? Très peu de choses, tout ça serait vain. On ne peut pas mener le combat pays par pays sans se parler les unes aux autres. C'est pourquoi, là, pendant les quelques minutes qui suivent, vous allez avoir quelques prises de parole de femmes représentant différents pays du monde. Donc je vous demanderai juste, voilà, pour les personnes intéressées, de vous rapprocher un tout petit peu. Et puis, il y a moyen d'écouter tout en profitant encore de ces derniers rayons de soleil. Donc, pour commencer, je vous invite toutes et tous à venir écouter Perla Jo, qui est donc activiste et artiste, qui est libanaise et qui peut nous parler des questions de féminisme liées aux révoltes qui ont eu lieu tout récemment. Donc, je lui passe le micro. Elle parle en anglais. I can translate words after words if you want to.
But I've seen that people speak English here. بقلبي واحد وضمير واحد إنسان واحد جوا القلب ما تنسى اختلافك وتفهم جراحك مغزى الحياة أساس الحب Humanity, diversity, solidarity. How powerful are these three words? Humanity, diversity, solidarity. We are not the same. We don't think the same. We don't want the same things. We do not aspire the same thing. We do not dream of the same future. We do not believe in the same gods. Diversity and solidarity. Because we are not the same, yet we all have skins, yet we are all humans, yet we all need each other. So we have to stand together today, because we are not the same, yet we are all the same. How come this is possible? It is possible in a word. When do we have problems in this world? We have problems with many people, when many people with different opinions and different beliefs come together and they try to organize. So when they try to organize, things go wrong. Why? Because someone has to lead. No one has to lead. Each one can lead. Each one can lead, and together we lead. Because we are much more powerful if we stand together. We are much more powerful if we understand each other. We are more powerful if we listen. We are more powerful if we care. We are more powerful if we love. We have the wrong definition of the word love in this world. We have the very wrong definition of the word love, because it's so easy to say I love you 100 times and yet I don't listen. It's so easy to say I love you 100 times and you would be in pain and I will not help you get a medicine. It's so easy to say I don't like this system and sit home and nag all day. It won't change. Nothing will change unless we stand together within humanity, diversity, and solidarity. It's been 4 months in Lebanon that we've been living the biggest revolution of our history. We've had revolutions before, but what's so different today? That usually we used to talk about sectarianism between Christians and Muslims. Today we speak about classism as well. We do not want equality. We want equity. We want equity. We don't want a box for us to stand and see what's beyond. We need the wall to go away so we can see without needing any boxes, any help, because we can do it as humans within humanity, diversity, and solidarity. In Lebanon, a woman still cannot give the nationality to her kids. In Lebanon, if a woman's father dies and she needs to take the inheritance, she can't. Her brother does. And if her brother is not there, the government does. In Lebanon, we still don't take women as employees if they are newly married, because we are afraid that they will have kids, because we don't want them to have kids. No, we want them to have kids, but we don't want them working. We don't want to give them days to take care of their child. We don't want to understand how powerful woman is today in society. We give birth. We give life. We are sensational. We are emotional. We are delicate. We are compassionate. What do we lack? Why do we still have to prove it? We have nothing to prove. You take your freedom. You take your liberty. You have it already. We are human. We are born naked. We have encounters. We take information and we live in spaces. We have emotions. We have thoughts. We create perceptions and we change perspectives. Always. We are not one as an individual. We are many and we are in a constant transformation every day. I've been fighting on the streets of Lebanon for the past 4 months, 20 hours out of 24 hours, fighting the system, fighting the lack of social justice, fighting the lack of services, fighting the economical crisis that we're in. We cannot get a hold of our money in the bank accounts. Everything we've worked for has vanished. We are still ruled by the same warlords that created the civil war in the 70s and who are still in power until today after being sent to prison, after being sent for exile. We speak about feminism. What is a female without a man? What is a man without a female? We both need each other. We all need each other as human beings. They have separated us through religion. They have separated us through gender. They have separated us through borders and nations. Yet, it's one earth. Yet, we are all human. Humanity, diversity, and solidarity. Vive la révolution, chaque jour. Chaque jour, et toujours, et partout. Merci.
It's hard to take the parole back, so thank you so much for these very powerful words. Thank you very much, Perla Jo. Bravo. Laurence Rayola, voilà. Bon, donc à présent, c'est l'association Je suis RD Congolaise qui va vous adresser quelques mots et qui va faire vivre les luttes liées à la RDC ici, à la place des Grottes.
Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Maintenant, je vais essayer de parler de la RDC qui souffre depuis 24 ans du pillage de tous ces minerais pour que nous, on ait nos portables, nos batteries de voitures électriques et cela au détriment de la vie des dames qu'on viole, comme le viol est devenu une arme de guerre. Voilà. Pour commencer, je vais chanter une chanson en mémoire de toutes ces femmes. C'est une chanson qu'on a toujours chantée en RDC. Et voilà, un instant. À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dama. Oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouverne mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre, oh dama, je pense à toi, femme de champ, femme de rivière, femme du grand fleuve. Oh, toi, ma mère. Je vais prendre 2 minutes de silence pour penser à 6 millions de personnes qui meurent en RDC dans le silence total. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Parmi ces droits figurent le droit de la vie et à l'intégrité physique. Pourtant, aujourd'hui encore, les violences contre les femmes persistent, représentant ainsi les violences des droits humains les plus répandues au monde et pourtant les moins reconnues. Les violations domestiques sont les causes principales de la mort ou l'atteinte à la santé des femmes entre 16 et 44 ans, avant même le cancer, la malaria ou les accidents de la route. Parce que ça continue, nous, Suisses d'origine congolaise, on se levait un jour, on se dit on ne doit plus se taire. Parce que si on se tait, c'est comme si on était devenu des bourreaux de toutes ces femmes qu'on viole juste pour les faire fuir de leur village. Nous, femmes congolaises, refusons que le mal devienne la norme à suivre. Notre association est née sous l'exaspération de la colère de toutes les Congolaises. Les viols, les humiliations que subit la femme congolaise pour que nous puissions nous communiquer avec des portables ou bien avec des voitures électriques. Et je pense que, où que vous soyez, vous avez un minerai dans votre maison qui vient du Congo. 83% des minerais au monde viennent du Congo. Mais la femme congolaise meurt et on se tait. Il ne faut plus se taire. Merci. Nous nous sommes engagés par rapport aux violences faites aux femmes. Nos engagements sont les suivants. Nous soutenons le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, qui répare les femmes pour l'hôpital de Panzi. Donc si vous nous soutenez, vous soutenez ce médecin qui se bat jour et nuit pour refaire les appareils génitaux qui ont été détruits, étant donné qu'on introduit des atrocités que des fois j'ai du mal à admettre. Donc il y a des gens qui s'amusent à aller prendre des petites filles, des bébés, des jeunes filles, des mamies et tout le monde à violer n'importe comment. Nous nous sommes rendus compte que cette problématique ne concernait pas la RDC. Elle a des implications internationales et nous rend coupables autant que leurs agresseurs. Il fallait tirer la sonnette d'alarme, dire tout simplement « stop ». Elles existent, ces femmes. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film américain. Notre cri de douleur a eu un écho. Nous devons changer notre vision et notre façon d'agir pour qu'une paix durable qui implique une justice efficace. Nous soutenons les actions du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, dans la fondation Panzi, notamment la maison Dorcas, maison qui accueille les femmes victimes de viols pour leur sociabilisation après leur guérison ou pas. Nous soutenons aussi la création de la clinique juridique de Panzi avec Maître Thérèse Koulungu qui se bat pour l'instauration d'un tribunal spécial pour les victimes de violences sexuelles. Enfin, nous aidons les jeunes femmes victimes de la traite des êtres humains à sortir de l'enfer où qu'elles se trouvent dans le monde, en les accompagnant dans leur démarche périlleuse jusqu'à leur retour en RDC. Prochainement, en Suisse, nous sommes appelés à voter pour des multinationales plus responsables. Je vous exhorte à voter et à faire pression sur ces multinationales qui se cachent derrière leurs succursales, qui doivent être responsables, avoir des actions responsables dans ces pays. Tout l'intérêt que vous pourrez porter à notre association est un intérêt que vous porterez à la situation de femmes congolaises et d'autres femmes qui souffrent dans le monde parce que nous ne nous limitons plus qu'à la femme congolaise. Au nom de notre association RD Congolaise et au nom de Maître Brigitte Luimbadio de l'étude Luimbadio à Neuchâtel, nous remercions le mouvement des femmes helvétiques pour cette opportunité pour une paix durable en RDC. Le silence de la communauté internationale sur les crimes à caractère sexuel, dont le viol des femmes et des enfants et des bébés, qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La situation des femmes en RDC et à l'est du Congo est déplorable. Je vous exhorte à faire des actions, s'il vous plaît. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup pour cette prise de parole et d'avoir rendu visibles ces problèmes et ces crimes de guerre en RDC. Nous avons encore une prise de parole pour les femmes érythréennes. Et donc, c'est Zeudi qui vient parler et qui fait partie notamment de l'opposition au gouvernement en Érythrée.
Merci. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors, je ne vous entends pas. Bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour parler des femmes érythréennes qui n'ont pas la parole. Donc, je suis la porte-parole par défaut des érythréennes qui ne peuvent pas exprimer leur calvaire. Donc, par le gouvernement érythréen, on est muselé. Aujourd'hui, je parle de toutes les Érythréennes, mais comme c'est la journée de la femme, journée internationale des droits des femmes, donc je vais préciser plus ou moins de me limiter aux femmes, de petites filles jusqu'aux grand-mères qui sont détenues par le gouvernement sans jugement. Il y a des arrestations arbitraires. Ils sont pris en otage par l'État non illégal, donc qui n'est pas démocratique. Depuis 30 ans, ils nous oppriment. Ceux qui nous ont libérés, ils nous oppriment. Pourtant, dans l'histoire, les femmes, ils ont combattu pour l'indépendance avec leurs frères hommes. Et après l'indépendance, ils ont été mis de côté. On les a renvoyés dans leurs fourneaux. Malheureusement, elles n'ont pas assuré la pérennité ou la liberté qu'ils ont joui pendant l'indépendance, en fait, pendant la guerre de l'indépendance. Et en Érythrée, actuellement, en 2020, les jeunes filles, elles sont mises dans les camps militaires, donc le service militaire obligatoire pour les filles aussi, que ce soit pour les garçons et les filles, à partir de la dernière année du collège, le cursus scolaire. Et les femmes, elles sont vraiment victimes doublement, car il y a des viols et des mariages forcés ou des grossesses involontaires, car ceux qui sont dans ce camp militaire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on est des propriétaires de l'État, en quelque sorte. Que ce soit les hommes ou les femmes. Ça, je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais quand on est une femme, et c'est encore pire, les conditions féminines ne permettent pas une vie en état de guerre. On est pris... en fait, même la société, elle les rejette. Dès qu'ils ont fait un service... Pour ne pas aller déjà au service militaire, elles font des mariages avant l'âge. Donc, il y a plusieurs choses qui se cumulent. Donc, la femme érythréenne, elle est poussée à l'exil, où elle n'est pas en sécurité même dans son propre pays. Et là, je peux vous expliquer en quelques mots, on est dans une société patriarcale, et en plus, il y a la religion qui se met par-dessus le marché, quasiment toutes les religions, ils se sont mis d'accord pour opprimer la femme, puisqu'il y a la culture, plus la religion, et plus un régime totalitaire, donc la femme, elle n'a rien à dire. Donc on est doublement pris en otage. Quand elles vont quitter l'Érythrée sur la route de l'exil, malheureusement, on le voit sur toutes les télés internationales, on a vu les Érythréennes se faire pêcher comme des poissons sur la Méditerranée. Mais bien avant, même en quittant l'Érythrée, il y a des femmes qui se font et savent qu'ils vont se faire violer et ils vont se faire injecter des contraceptifs, sans parler des maladies comme le sida et autres, mais elles sont vraiment réduites à l'état d'esclavage comme il y a 500 ans. Et les femmes, elles sont rançonnées, elles sont violées et ils ont des enfants, elles portent des enfants des violeurs. Et une fois arrivées même en Europe ou ailleurs, elles sont victimes de nouveau de tout ce qui peut les attendre. Elles sont déjà fragilisées psychologiquement et le fait qu'elles soient isolées. Et donc, on a aussi toutes les oppressions qu'elles rencontrent dans le pays d'accueil. Et la femme érythréenne, elle doit vraiment sortir de toutes les oppressions qu'elle a subies. Et une fois même en exil ici, à côté de chez vous, votre voisine, elle peut être vraiment opprimée par le mari ou par par la famille. Donc, elle n'est pas du tout libre. Même si elle est dans un pays libre, psychologiquement, elle n'est vraiment pas libre. Et il y a aussi, elle se protège, en fait, elle cherche la sécurité dans le mariage. Et donc, ce mariage, ça continue encore, puisque c'est soit pour regroupement familial ou pour s'occuper de sa famille ou pour retrouver un semblant de sécurité. Mais elle n'est pas libre du tout. Et merci de m'avoir écoutée. Et je suis la porte-parole de toutes celles qui ne peuvent pas. Et on aurait pu être des milliers parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas qu'une érythréenne ici. On est plus de 40 000 en Suisse. Mais elles n'oseront pas venir parler ici parce qu'elles ont peur de représailles au pays. Et on peut très bien parler des gens qui vont en tout cas reporter ou faire une oppression. Moi, je pourrais être passible de... En fait, j'ai aucun droit en Érythrée et je pourrais être passible de représailles par ma famille ou par... Donc, les gens, ils peuvent vraiment pas... Ils sont pas libres de ce qu'ils peuvent exprimer. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis désolée, je suis très émotionnellement plus sensible. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Et tout ce que je peux vous dire, vous pouvez le vérifier vous-même. Et on vit vraiment dans un calvaire permanent. En tant que femme érythréenne, ça me désole de savoir que mes sœurs, elles sont dans... Oui, elles n'ont pas de parole. Et moi, je peux dire au gouvernement érythréen, je ne sais pas si on peut appeler déjà gouvernement, au régime érythréen, de quitter. Quitter, s'il vous plaît. Et merci pour la solidarité internationale. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et merci de votre soutien. Et je suis contente de faire partie de cette femme. Merci.
Merci, bravo. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je crois que les mots qui ont été prononcés juste là rappellent à quel point nous avons une responsabilité ici en Suisse de nous battre pour nos droits, de soutenir toutes les luttes à l'international qui rejoignent notre combat pour plus de sororité, plus de solidarité dans le monde. Une lutte contre le racisme, contre toutes les formes de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie. Je pense que c'est aussi très important. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des femmes. Les femmes, c'est une catégorie sociale qui est construite, dans laquelle on peut mettre beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, c'est une solidarité avec toutes les femmes qui inclut vraiment toutes les personnes qui ne soient pas des hommes cisgenres. Et je pense que c'est très important de préciser que nous sommes aussi soutenantes envers nos sœurs qui sont transgenres. Aujourd'hui, donc, nous avons entendu parler de harcèlement, de violence sexiste, de paternalisme, de mansplaining, de manspreading. Tout ça, c'est un cycle de violence qui commence avec chaque mot déplacé qui est prononcé à notre encontre contre les femmes. Nous luttons pour nos droits. Quand nous disons qu'une parole n'a pas à être prononcée, nous commençons déjà à lutter pour nos droits et pour les droits de nos sœurs. Nous combattons pour la vie, pour nos vies, et nous réclamons un monde où nous serions libres. Je tiens aujourd'hui à remercier toutes les personnes qui se sont investies à fond pour organiser cette journée, malgré tous les aléas, malgré les virus. On a réussi à amener tout ce monde dans la rue. C'est une immense, immense fierté. Je ne peux pas donner de nom parce qu'en fait, c'est un collectif et c'est vraiment un travail de toutes ici aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être venu et merci surtout pour toute l'organisation. C'est juste incroyable. J'ai eu une émotion incroyable en voyant toutes ces personnes réunies et là, vous êtes juste magnifiques, alors continuez comme ça. Et on lutte pour nos droits et pour les droits de toutes nos sœurs à travers le monde. Solidarité! Je passe le micro, il y a encore plusieurs prises de parole. Et puis vu que vous êtes là, qu'on est bien, qu'il fait plutôt chaud et que c'est le début du printemps... Pour commencer, Paul Manja, qui est ici au nom du collectif Paki Folle de Rage, qui va vous parler de leur action contre la précarité menstruelle.
Bonjour, nous avons mené avec le collectif Paki Folle de Rage des points de récolte pour les femmes en situation de précarité qui devaient faire face à la précarité menstruelle notamment, qui est le fait de ne pas avoir les moyens de s'acheter des protections hygiéniques et de finir avec du papier toilette dans la culotte, ce qui crée plein de problèmes de santé publique, de mycoses, d'infections, qui va ensuite coûter très très cher à la société. Ce point de récolte, en une semaine, nous avons récolté pour un an de produits d'hygiène intime pour les femmes. Et ça nous a donné un élan pour mener des actions politiques, pour que les règles ne soient plus taboues, qu'il y ait un discours politique sur ce que c'est et ce que ça coûte d'avoir ces règles. Nous estimons que c'est un problème de santé publique, que ça n'est pas du tout un problème intime, puisque toutes et tous, nous sommes issus du sang des femmes, mais que seules les femmes le payent. Nous avons mené pendant 3 jours une action pirate de dépose de petites boîtes avec des serviettes hygiéniques et des tampons dans tous les lieux publics de la ville, les bibliothèques municipales, les universités, les collèges, les écoles professionnelles, etc. Nous tentons de faire un débat politique sur ce sujet. Nous souhaitons que vous y participiez toutes et tous en vous inscrivant sur la page Facebook des Paki Folle de Rage, et nous vous tiendrons au courant des activités politiques de la précarité menstruelle. Merci de votre attention.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Wissem. Je fais partie du collectif de Foulard Violet et du collectif Grève de Femmes. Je parle aujourd'hui au nom des femmes, déjà. Tout ce qui est discrimination, en fait, je dénonce tout ce qui est discrimination, tout ce qui est harcèlement. Je parle de femmes voilées. J'aime pas le mot voilée parce que femme qui porte le voile plutôt. Et je vous dis, foulard ou pas, c'est mon choix. Donc c'est le mot où tout le monde croit que c'est une obligation. Moi, j'ai porté le voile le 14 janvier. Si vous avez une information par rapport à la Tunisie, c'était le jour où Ben Ali il est dégagé. Donc c'est un symbole pour moi de libération. C'est un symbole où j'ai pu au moins faire quelque chose pour moi-même. C'est un petit parenthèse que je le ferme. Je parle aujourd'hui aussi au nom des filles qui sont dans les écoles, qui ne sont pas appelées par leur nom ni leur prénom, mais par la couleur de leur foulard. Je trouve que c'est injuste et je trouve que c'est inhumain. Je parle aujourd'hui au nom des filles qui sont dans les collèges et dans les universités, qui ne trouvent pas de stage parce qu'elles ont le choix de porter le voile et on l'interdit de le porter. Désolée, la sœur, elle est émue. Donc, il y a des parcours aussi que les filles, ils ont choisi à le faire et un choix. Et ce parcours, il sera détruit à refaire ou à quitter parce que justement, c'est son choix de porter le voile, mais elle ne trouve pas de stage. Je parle aussi au nom de femmes. Je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs femmes, on est des centaines de femmes diplômées et des fois surdiplômées. On préfère aller étudier parce qu'on ne trouve pas de travail parce qu'on est étiquetée, ouais, femme voilée. Moi, j'ai postulé plusieurs fois. Moi, je suis architecte, je suis ingénieure, architecte et urbaniste. Pour vous dire que j'ai eu le temps pour faire les études. J'ai pu trouver un travail en dehors de Genève, mais j'habite à Genève. Mes filles et mon mari sont à Genève. Je veux trouver un travail à Genève. C'est impossible pour moi. Pourquoi ? Parce que justement, je porte le voile. Je parle aussi de noms, plusieurs de femmes aussi. Elles sont assez qualifiées, médecins, avocates et autres, qui ne trouvent pas de travail. Et surtout cette loi qui est passée dernièrement, la loi de laïcité, on attaque, en soi-disant c'est une loi de laïcité par rapport à l'État, mais on n'oublie pas que ça attaque aussi le privé. Ça touche énormément le privé. Cette loi, quand elle est passée, en fait c'est justement un choix politique pour discriminer en fait et toucher la femme voilée. Et moi, je vous le dis et je vous le confirme parce que cette loi, elle était dans les tiroirs il y a longtemps, mais elle est sortie que lorsqu'il y a une sœur qui porte le voile. Elle fait partie de Parti Verte et elle était élue pour plaigner. Donc cette loi, elle est passée. On a fait un recours. Moi, je fais partie des femmes qui ont fait le recours contre cette loi. Mais malheureusement, ils nous ont répondu, soi-disant, ouais, mais cette loi, elle est quand même changée. Elle a le droit, la femme voilée ou les personnes qui portent un signe religieux, de participer à la politique. Mais moi, je n'ai pas besoin. C'est un choix. C'est un choix de participer à la politique. Moi, je veux être digne, je veux travailler. C'est une loi plutôt discriminatoire pour moi et pour d'autres. Si elles ont le choix de travailler, si elles ont le choix d'être libres, indépendantes, c'est vraiment une lutte que je le tiens et je le tiens à cœur. Donc je dénonce aujourd'hui l'islamophobie, l'utilité de notre voile dans la politique, dans les médias. Ils nous trouvent toujours une excuse pour parler de nous. Quand il y a un gros problème, alors il faut cacher un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc on tire ce voile de tiroir pour occuper les gens, les séparer et leur faire peur. Moi, j'étais humiliée, traitée de terroriste. Je ne sais pas pourquoi, alors que je n'ai pas la tête. Je dois rentrer chez moi alors que je suis suisse. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour ça, on lutte, nous, les femmes, et les femmes qui portent le voile. Alors, foulard ou pas, c'est mon choix. Foulard ou pas, c'est mon choix. Foulard ou pas, c'est mon choix. Merci à toutes et à tous.
Bonjour. Nous sommes un groupe de filles latino-américaines. On s'est constitué après cette vague violette incroyable du 14 juin. On avait vécu ça séparément. Et puis après, on s'est dit, bon, on est beaucoup de filles latino-américaines à vivre tant de choses fortes ici, il faut qu'on se retrouve. Donc voilà, nous y sommes là. Il y a des filles chiliennes, colombiennes, péruviennes, il y a un peu tout. Donc on a décidé d'écrire un manifeste pour le partager avec vous. Et puis si vous voulez nous rejoindre, bah, venez vers nous, les filles latino-américaines.
Salut, on va le lire en espagnol et en français. En honor y gratitud a este momento de fuerza, lucha y sororidad internacional por las mujeres trans y no binarias, queremos expresar nuestras experiencias como latinas residentes en Europa. Queremos ser libres, que se considere la violencia machista como un delito y se apliquen leyes efectivas colocando fin a la violencia física, sexual, psicológica y estructural. Pedimos reparación, justicia para todas las mujeres y disidencias que por razones de género y expresión de este han vivido cierta forma de maltrato. Los feminicidios en Latinoamérica crecen exponencialmente y la violencia machista afecta a millones de mujeres y familias. 14 de los 25 países con más feminicidios en el mundo están en América Latina. Situación alarmante que representa una cifra diaria de 12 mujeres asesinadas todos los días en toda América Latina y el Caribe. Coloca a la región en la cima de los lugares más peligrosos para las mujeres. Este es un fenómeno al que el Estado y nosotras como sociedad debemos poner fin ya. Sin embargo, este fenómeno es global. Afecta a todas las mujeres trans y no binarias, tanto en América Latina como aquí, en Europa. Todos hemos sufrido de alguna manera u otra la violencia heteropatriarcal. En Suiza, se estima que un feminicidio ocurre cada 2 semanas y 1 de 5 mujeres han sido víctimas como violencia al menos una vez en su vida. Por esta razón, como bloque feminista latinoamericana, reivindicamos un feminismo antifascista, antirracista, anticolonial, anticapitalista e inclusivo.
Situación que viven desde hace años las mujeres trans y no binarias latinas migrantes en Europa. No tener papeles nos pone en situación de vulnerabilidad, exponiéndonos a la discriminación social e institucional, tales como la dificultad de acceso a la educación, al mercado laboral, a la salud y seguridad. Incluso aquellas que hemos accedido al sistema de manera legal sufrimos discriminación, ya sea por el idioma o la cultura. Además, la profesionalización se obstaculiza a través del proceso de convalidación, retrasando nuestras posibilidades de acceder a un trabajo y situación estable. Como bloque latinoamericano, exigimos que el Estado se haga cargo del proceso de integración social, profesional, laboral, educacional de todas las mujeres, trans, no binarias, migrantes. Pedimos la aplicación del principio, un mismo trabajo, un mismo salario, un mismo permiso. Defendemos el derecho de cada una a decidir libremente sobre su cuerpo. Ni la Iglesia, ni el Estado, ni la sociedad nos pueden dictar cómo parir, cómo criar, y nos unimos a la lucha de nuestras hermanas latinoamericanas por un aborto libre, seguro y gratuito. ¡Sí! El sistema capitalista y heteropatriarcal nos ha considerado históricamente como sumisas, inferiores y como objeto a disposición del placer del hombre. Exigimos nuestro derecho de circular libremente por el espacio público, sin miedo y sin tener que soportar la violencia verbal, psicológica o física hacia nuestra integridad. Por estas y más razones, en memoria de todas las caídas por la violencia heteropatriarcal como bloque feminista latinoamericano, no daremos ningún paso atrás. La lucha será feminista o no será. Es nuestra lucha, revolución y de nuestras cuerpos.
Merci. Maintenant, en français pour les gens qui ne parlent pas espagnol. En l'honneur du mouvement qui nous rassemble et en solidarité avec la lutte internationale des femmes trans et non-binaires, nous voudrions partager notre ressenti en tant que latino-américaine résidant en Europe. Nous voulons être libres, que la violence machiste soit considérée comme un crime et que des lois efficaces soient appliquées, mettant fin à la violence physique, sexuelle, psychologique et structurelle. Nous demandons justice et réparation pour toutes les femmes et dissidences qui, pour des raisons d'identité de genre et de son expression, ont vécu une certaine forme d'abus. En Amérique latine, les féminicides connaissent une croissance exponentielle, la violence machiste touchant des millions de femmes et de familles. 14 des 25 pays qui comptent le plus grand nombre de féminicides dans le monde se trouvent en Amérique latine. Cette situation alarmante, qui représente un chiffre quotidien de 12 femmes assassinées chaque jour dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes, place la région en tête des endroits les plus dangereux pour les femmes. C'est un phénomène auquel l'État et nous-mêmes en tant que société devons mettre un terme. Toutefois, ce phénomène est mondial. Il touche toutes les femmes, trans et non-binaires. Tant en Amérique latine qu'ici, en Europe, nous avons toutes souffert d'une manière ou d'une autre de la violence hétéro-patriarcale. C'est pourquoi, en tant que bloc féministe latino-américain, nous revendiquons un féminisme antifasciste, antiraciste, anticolonial, anticapitaliste et inclusif. Nous dénonçons la situation que vivent depuis des années les femmes trans et non-binaires migrantes. La situation irrégulière de certaines d'entre nous nous met en condition de vulnérabilité. Nous exposons ainsi à subir des discriminations tant au niveau social qu'institutionnel. L'accès à l'éducation, au marché du travail, à la santé et à la sécurité se voit notamment entravé. Même celles d'entre nous qui sommes en situation régulière souffrent de discrimination, que ce soit à cause de la langue ou de notre culture. En outre, les processus de validation rendent la professionnalisation difficile, ce qui retarde nos possibilités d'accéder à un emploi et une situation stable. En tant que bloc de latino-américaine, nous exigeons que l'État prenne en charge le processus d'intégration sociale, professionnelle et éducative de toutes les femmes trans, non-binaires et migrantes. Nous demandons l'application du principe « même travail, même salaire, même permis ». Nous défendons le droit de toute personne à décider librement sur ce qui a trait à son corps. Ni l'Église, ni l'État, ni la société ne peuvent nous imposer leurs normes et nous nous joignons donc à la lutte de nos sœurs latino-américaines pour un avortement libre, sûr et gratuit. Le système capitaliste et hétéropatriarcal nous a historiquement considérés comme soumises, inférieures et comme objets à disposition du plaisir masculin. Nous revendiquons notre droit à circuler librement dans l'espace public, sans crainte et sans avoir à subir de violences verbales, psychologiques ou physiques envers notre intégrité. Pour ces raisons, et bien d'autres encore, en mémoire de toutes les victimes de la violence hétéropatriarcale, en tant que bloc féministe latino-américaine, nous ne reculerons pas. La lutte sera féministe ou ne sera pas. C'est notre révolution et celle de nos corps.
Alors, je dois prendre la parole pour vous annoncer que la journée du 8 mars termine maintenant. Voilà, la lutte continue demain, après-demain, jusqu'au 14 juin et jusqu'à la fin de ce système patriarcal qui nous opprime.